Orange, cyber défense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption, it's now.
Bonjour et bienvenue. Ce bulletin d'information de novembre 2025 vous est présenté par le Cyber Intelligence Bureau, une division de l'Epidémiologie Lab d'Orange Cyber Défense.
Et pour notre analyse, on s'appuie sur leurs données qui ont été collectées et croisées depuis les canaux Telegram de divers groupes activistes.
L'idée, c'est de passer en revue les campagnes de ce mois de novembre 2025, de voir qui sont les cibles, les méthodes, tout ça dans un contexte géopolitique, disons, assez tendu.
C'est ça. Et il faut préciser que c'est une analyse d'un point de vue strictement cyber. Tout vient de recherches en source ouverte, ce qu'on appelle l'OSINT, et on respecte un principe de neutralité totale.
Absolument. Le but est de comprendre, pas de juger. Et ce qui frappe d'emblée, c'est que le cyberespace n'est plus juste en miroir des conflits. C'est devenu un véritable théâtre d'opérations.
Complètement. Ce n'est plus seulement de la déstabilisation ou du vandalisme numérique. C'est une facette intégrale des conflits modernes.
Alors, justement, plantons le décor. Quelle est la situation de cette tension géopolitique vue depuis ces fameux canaux Telegram ?
Sans grande surprise, il y a un conflit qui domine très très largement l'activité. C'est le conflit russo-ukrainien.
Ah oui, là l'activité est quasi quotidienne, d'après ce que j'ai lu. C'est une véritable cyberguerre d'usure.
Exactement. D'un côté, on a des groupes pro-russes qui sont très organisés et qui ciblent l'Ukraine, bien sûr, mais aussi et surtout ses alliés occidentaux. Et de l'autre, des groupes pro-ukrainiens qui ripostent.
Mais ce n'est pas le seul front, si.
Non. Et c'est ça qui est intéressant. Les données montrent aussi d'autres zones de tension. On voit par exemple des opérations pro-kurdes qui visent la Turquie.
D'accord.
On a aussi des activités pro-palestiniennes. Et même des tensions internes au sein de la mouvance activiste.
Des conflits entre...
Oui, des sortes de débats idéologiques, notamment autour de l'héritage d'Anonymous. Le cyberespace est vraiment le miroir des alliances, mais aussi des fractures du monde.
Et en parlant d'alliances, les cibles ne sont pas choisies au hasard, j'imagine. La Belgique, le Danemark, la France, l'Italie...
Pas du tout. Si on prend la carte de ces pays et qu'on la superpose à celle du soutien militaire et politique à l'Ukraine, la correspondance est parfaite.
C'est une forme de pression politique, en fait.
C'est une pression directe. L'objectif est double. D'abord, semer un peu le chaos chez ses alliés pour perturber la vie quotidienne, et ensuite envoyer un message politique très clair. Votre soutien a un coût.
Alors, qui sont ces acteurs ?
Du camp pro-russe semble très organisé, très bruyant. On a une liste de noms, UserSec, Killnet, Dnet.
Oui, la liste est longue. NoName0576, aussi très actif, Dark Storm Team. Ce sont des collectifs très vocaux.
Et ils forment des alliances entre eux.
Tout le temps. Ce sont des alliances très fluides, opportunistes. DeepNet qui s'associe à Zpentest Alliance, NoName0576, avec un groupe qui s'appelle Even of the Slavs. Le but est de maximiser l'impact, à la fois médiatique et technique.
Et de l'autre côté, chez les pro-ukrainiens.
Là, ça semble différent, plus centralisé. La communication passe beaucoup par un canal, Eddie Ukraine, qui se présente comme un canal officiel du renseignement de défense ukrainien.
Ah, d'accord, c'est plus institutionnel. Voilà, il rapporte à la fois les succès militaires et les cyberopérations, en mentionnant des groupes comme le Black Winter Group. C'est moins underground, si on veut.
Et en dehors de ce conflit principal, il y a des acteurs assez fascinants. Le rapport parle de GhostSec, par exemple.
GhostSec, c'est un cas d'école. On voit dans leurs discussions qu'ils sont en pleine crise idéologique. Ils débattent de la commercialisation d'Anonymous, de la liberté de l'information.
C'est le pôle un peu philosophique du mouvement.
C'est ça. Et à l'opposé complet du spectre, on a un groupe comme Pharaoh's Team.
Eux, la philosophie, ce n'est pas trop leur truc, j'ai l'impression.
Pas du tout. Leur canal, c'est une place de marché. Ils vendent des shells, c'est-à-dire des accès à des serveurs, des bases de données, des cartes d'identité. C'est du business, pur et simple.
C'est fou. Et du coup, cette diversité de profils se retrouve dans le choix des cibles. On ne vise pas que des ministères.
Non, loin de là. Bien sûr, les cibles gouvernementales sont en première ligne. Les ministères en Ukraine, le service de renseignement belge, la défense en Finlande. Ça, c'est la partie, disons, classique.
Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est quand on parle d'infrastructures critiques. Le Didocia Project, donc affilié à NoName0576, revendique la prise de contrôle de deux centrales hydroélectriques en France.
Oui, l'une nommée centrale Chalmazel et une autre DDF. Et là, on change de dimension.
Attendez, ça change tout. On n'est plus en train de parler d'un site web qui est inaccessible. On parle d'attaque contre le monde physique.
Absolument. Et la liste est longue. Les transports, des aéroports en Italie, au Danemark, les réseaux de transport public à Bruxelles-Copenhague.
Les télécoms aussi, j'ai vu. Proximus en Belgique.
C'est ça. Le but est de paralyser la vie de tous les jours, de rendre le conflit tangible pour le citoyen.
Et le plus alarmant, ce sont peut-être les attaques sur les systèmes de contrôle industriel, les SCADA.
Oui, Tounet, qui revendique la destruction de SCADA en Turquie, le Dedosia Project, qui prend le contrôle d'une usine de peinture en Italie et qui va jusqu'à manipuler les températures dans un hôtel de luxe.
Mais c'est dingue. Concrètement, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment interagir avec le monde réel ?
C'est exactement ça. Un système SCADA, c'est le cerveau numérique qui contrôle un processus physique. Un barrage, une usine. Pirater un site web, c'est comme faire un graffiti sur un mur. Pirater un SCADA, c'est prendre les commandes de la plomberie de tout l'immeuble.
Et comment ils font ça ? C'est quoi leur méthode ?
Alors, leur outil le plus courant, ça reste l'attaque par déni de service, le DDoS. C'est simple, efficace, pour la communication, ça fait du bruit.
C'est quand ils inondent un site pour le rendre inaccessible.
Voilà. Ils publient ensuite un lien checkpost.net comme preuve. C'est leur trophée. On voit aussi beaucoup de défacement, la défiguration de sites web.
Et des fuites de données. Gossec qui a publié les données d'un site de casino, par exemple.
Oui, pour dénoncer leur manque de sécurité. Ça, c'est du militantisme numérique assez classique. Mais la manipulation de systèmes industriels, c'est un saut qualitatif.
Parce que ça demande plus de compétences, j'imagine.
Beaucoup plus. Le Dedosia Project ne dit pas juste « on a attaqué une centrale ». Il détaille « on a modifié les paramètres des générateurs, bloqué les turbines, déclenché des alarmes ». Ça suggère un accès très profond.
Ce qui pose la question d'un éventuel soutien, plus structuré.
On peut se poser la question, surtout quand on voit la professionnalisation de ces groupes. Ils ont un vrai modèle économique.
Un modèle as a service.
C'est ça. UserSec et Dark Storm Team proposent des services payants. Des cours de hacking pour 100$, des attaques DDoS à la demande.
C'est une économie parallèle, en fait.
Complètement. L'activisme est devenu un business qui finance les opérations et permet de recruter.
Et les motivations, en final, c'est quoi ? L'idéologie ? L'argent ?
C'est un mélange des trois, en fait. L'idéologie, la géopolitique, c'est le moteur principal. Le narratif. Les hashtags, hashtag Glory to Russia ou hashtag FUCUKEU sont partout.
Mais le profit est une motivation bien réelle pour certains.
Bien sûr. Et il y a un troisième moteur, l'ego. La réputation. C'est un milieu où on se vante, on se lance des défis. Tounet, qui défie publiquement Firewire. Dans l'anonymat, le statut, c'est très important.
Donc on a un cocktail de politique, d'argent et d'ego.
C'est ça, un cocktail complexe. On ne peut pas comprendre leurs actions si on ne comprend pas cette culture interne, avec ses codes et ses rivalités.
Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'état du monde cyber en novembre 2025 ?
La première tendance, c'est cette frontière qui devient de plus en plus floue entre l'activisme et les opérations menées par des États.
La deuxième, c'est que les infrastructures critiques, notre quotidien, sont devenues la ligne de front.
Oui, et c'est une escalade volontaire. L'idée, c'est que si la vie des gens est perturbée, le soutien à la politique étrangère du gouvernement finira peut-être par s'éroder.
Et enfin, cette professionnalisation, ce mélange de politique et de profit.
Tout à fait. On est dans une cyberguerre de basse intensité, mais elle est permanente. Et dans cette guerre, Telegram est le champ de bataille informationnel central. C'est là que tout se passe.
Pour ces groupes, la victoire n'est donc pas seulement technique.
Non, elle est aussi narrative. L'enjeu, c'est de contrôler le récit.
Ce qui nous ramène à la question qu'on se posait au début. Quand on voit leur capacité à prendre le contrôle d'une centrale électrique, d'une usine, où se situe la frontière entre la protestation numérique et l'acte de guerre dans le monde réel ?
La vraie question que posent ces sources, c'est est-ce que cette frontière existe encore vraiment ? Et surtout, au final, qui est légitime pour la tracer ?
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.